Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Créateur, visitez les âmes de vos fidèles et emplissez de la grâce d'en haut les cœurs que vous avez créés. Vous qui êtes appelés consolateurs, dons du Dieu Très-Haut, fontaine de vie, feu, amour et onction spirituelle. Vous qui répandez les sept dons dans les âmes, doigt de la droite du Père, solennellement promis par lui aux hommes, et qui mettez sur leurs lèvres les trésors de votre parole. Faites briller votre lumière à nos yeux, répandez votre amour dans nos cœurs. Soutenez la faiblesse de notre chair par votre vertu incessante. Repoussez bien loin notre ennemi, donnez-nous promptement la paix, marchez devant nous comme notre guide pour que nous évitions tout mal. Qu'il nous soit donné par vous de connaître le Père comme aussi le Fils, et vous, ô Saint-Esprit, qui procédez de l'un et de l'autre, faites que nous ayons toujours foi en vous. Gloire soit à Dieu le Père et au Fils qui est ressuscité des morts, comme au Paraclet, dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Notre-Dame de la Sagesse, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Après cette longue, d'abord bonjour à tous et à toutes, et après cette longue interruption d'environ un mois et demi, même deux mois, durant laquelle, il faut bien le dire, serait aussi venir s'insérer la période des vacances de Pâques, nous pouvons enfin reprendre notre cours que nous avons donc dû mettre entre parenthèses pendant cette période un peu exceptionnelle. Ce cours donc de l'esprit de la liturgie, un cours donc de théologie fondamentale de la liturgie. Il faut d'abord donc, dans un premier temps, après cette longue interruption, raccrocher, je dirais, les wagons, et ceci est d'autant plus nécessaire que lors de notre dernière rencontre, nous étions arrêtés au milieu d'un chapitre intitulé « L'essence de la liturgie » et sur lequel nous avions déjà passé environ deux cours. Alors, dans ces deux cours, je vous avais exposé, après une partie méthodologique, l'essence de la liturgie, c'est-à-dire je vous avais donné la définition de la liturgie, la définition comme sacrement du sacrifice de la croix. Chacun des trois mots donc de cette définition est très important, puisqu'ils sont fondamentaux pour définir la liturgie dans son essence, comme je vous l'avais bien démontré. Ensuite, j'en avais appelé au témoignage des pères de l'Église, en faisant des citations de leurs œuvres et en exposant les différents noms de la messe qui avait été utilisée durant les premiers siècles de l'histoire de l'Église, en montrant que ces noms préparaient en fin de compte la définition que je vous ai donnée et que celle-ci ne paraissait pas clairement, en fait, ceci était tout à fait normal. Ça rentrait dans un développement homogène. Nous avons ensuite parlé, donc, dans ce chapitre, durant ce cours, de la synthèse scolastique et du Concile de Trente autour des notions de sacerdoce, de transsubstantation, de propitiation. Et je vous avais lu des extraits, en particulier donc de ce Concile de Trente, qui venait comme récapituler tout le développement homogène de la liturgie au cours du premier millénaire. Ensuite, dans le cours suivant, qui était donc le dernier cours que nous avions eu sur ce chapitre, je vous avais fait un exposé théologique, peut-être un peu rébarbatif, j'en conviens, mais qui reflétait les débats des théologiens sur ces notions de sacrifice de la messe, ces notions de sacerdoce. Et j'avais terminé en abordant le magistère récent. Je vous avais lu donc à cet effet des extraits de l'encyclique Mediator Dei du pape Pie XII, une encyclique publiée en 1947, et puis aussi des extraits du Concile Vatican II qui avait abordé donc la question de la liturgie au cours de l'une de ses constitutions. Et puis j'en étais resté au catéchisme de l'Église catholique dont j'avais commencé à vous parler. En reprenant donc ce cours il y a quelques jours, je me suis rendu compte aux merveilles de la providence divine que ce que je devais vous lire ensuite du catéchisme de l'Église catholique résumait même merveilleusement ce qui avait été dit au cours de ces deux derniers cours, donc depuis ce début de chapitre sur l'essence de la liturgie, et qui concerne donc et qui donc permet de faire une transition, en fait, une bonne transition après cette longue interruption. Donc, avant de terminer ce chapitre en traitant la question du genre de la Sainte Messe, je vais vous lire donc ce qui avait été prévu du catéchisme de l'Église catholique. Je vais vous lire les numéros 1362 à 1372 qui résument bien, comme je vous le disais, les deux derniers cours et qui permettent donc de faire la transition après cette interruption et qui font partie d'un paragraphe s'intitulant « Le mémorial sacrificiel du Christ et de son Église ». Alors voici donc, je vais vous lire en faisant de temps à autre donc quelques commentaires. Donc voici donc ces numéros 1362 à 1372 du catéchisme de l'Église catholique. L'Eucharistie est le mémorial de la Pâque du Christ, l'actualisation et l'offrande sacramentelle de son unique sacrifice dans la liturgie de l'Église qui est son corps. Dans toutes les prières eucharistiques, nous trouvons, après les paroles de l'institution, une prière appelée anamnèse ou mémoriale. Alors, dans ce numéro, donc 1262, le catéchisme donc nous dit que la messe, en fait, rend compte, sous forme du sacrement, de l'unique sacrifice sanglant du Christ, ce qui était au centre donc de ces deux derniers cours. Je continue donc au numéro 1363. Dans le sens de l'Écriture sainte, le mémorial n'est pas seulement le souvenir des événements du passé, mais la proclamation des merveilles que Dieu a accomplies pour les hommes. Dans la célébration liturgique de ces événements, ils deviennent d'une certaine façon présents et actuels. C'est de cette manière qu'Israël comprend sa libération d'Égypte. Chaque fois qu'est célébrée la Pâque, les événements de l'Exode sont rendus présents à la mémoire des croyants, afin qu'ils y conforment leur vie et qu'ils y participent. Le mémorial reçoit un sens nouveau dans le Nouveau Testament. Quand l'Église célèbre l'Eucharistie, elle fait mémoire de la Pâque du Christ et celle-ci devient présente. Le sacrifice que le Christ a offert une fois pour toutes sur la croix, demeure toujours ainsi actuel. Toutes les fois nous dit le Concile Vatican II dans sa Constitution Lumen Gentium, au numéro 3, toutes les fois que le sacrifice de la croix par lequel le Christ, notre Pâque, a été immolé, se célèbre sur l'autel, l'œuvre de notre rédemption s'opère. Parce qu'elle est mémoriale de la Pâque du Christ, l'Eucharistie est aussi un sacrifice. Le caractère sacrificiel de l'Eucharistie est manifesté dans les paroles mêmes de l'institution. Ceci est mon corps qui va être donné pour vous. Et cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang qui va être versée pour vous. Ce sont les paroles que Jésus prononce dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 22. Dans l'Eucharistie, le Christ donne ce corps même qu'il a livré pour nous sur la croix, le sang même qu'il a répandu pour une multitude en rémission des péchés. L'Eucharistie est donc un sacrifice parce qu'elle représente au sens fort et propre du terme, c'est-à-dire parce que l'Eucharistie rend présent le sacrifice de la croix, parce qu'elle en est le mémorial au sens fort du terme, parce qu'elle en applique le fruit. Le Christ, notre Dieu et notre Seigneur, s'offrit lui-même à Dieu le Père une fois pour toutes, mourant en intercesseur sur l'autel de la croix, afin de réaliser pour eux, donc pour les hommes, une rédemption éternelle. Cependant, comme sa mort ne devait pas mettre fin à son sacerdoce, à la dernière scène, la nuit où il fut livré, Jésus voulait laisser à l'Église, son épouse bien-aimée, un sacrifice visible, comme le réclame la nature humaine, où serait représenté, rendu présent, le sacrifice sanglant qui allait s'accomplir une unique fois sur la croix, dont la mémoire se perpétuerait de façon sacramentelle jusqu'à la fin des siècles, et dont la vertu salutaire s'appliquerait à la rédemption des péchés que nous commettons chaque jour. Le sacrifice du Christ et le sacrifice de l'Eucharistie sont un unique sacrifice. C'est ce que nous enseigne le Concile de Trente, que je vous cite, c'est une seule et même victime, c'est le même qui offre maintenant par le ministère du prêtre et qui s'est offert lui-même alors sur la croix. Seule la manière d'offrir diffère. Et puisque dans ce divin sacrifice qui s'accomplit à la messe, ce même Christ qui s'est offert lui-même une fois de manière sanglante sur l'autel de la croix est contenu et immolé de manière non sanglante, ce sacrifice est vraiment propitiatoire. Alors, j'ouvre une parenthèse, propitiatoire signifie donc qui rend Dieu propice, c'est-à-dire qui rétablit la relation entre l'homme et Dieu dégradée ou brisée par le péché. Et cette relation donc est rétablie fondamentalement par un sacrifice, puisque nous l'avions vu, ce qui réalise la relation entre l'homme et Dieu de façon fondamentale, c'est le sacrifice. Seul le sacrifice est capable, donc par excellence, de rétablir et puis d'entretenir cette relation entre l'homme et Dieu, qui sont deux entités totalement différentes. Alors je continue la citation du catéchisme de l'Église catholique. L'Eucharistie est également le sacrifice de l'Église. L'Église, qui est le corps du Christ, participe à l'offrande de son chef. Avec lui, elle est offerte, elle-même tout entière. Elle s'unit à son intercession auprès du Père pour tous les hommes. Dans l'Eucharistie, le sacrifice du Christ devient aussi le sacrifice des membres de son corps. La vie des fidèles, leurs louanges, leurs souffrances, leurs prières, leur travail sont unis à ceux du Christ et à sa totale offrande et acquièrent ainsi une valeur nouvelle dans le sacrifice de la messe. Le sacrifice du Christ, présent sur l'autel, donne à toutes les générations de chrétiens la possibilité d'être unis à son offrande sur la croix. Dans les catacombes, l'Église est souvent représentée comme une femme en prière, les bras largement ouverts vers le haut, en attitude d'orante, comme le Christ qui a étendu les bras sur la croix par lui, avec lui et en lui, elle s'offre et intercède pour tous les hommes. Toute l'Église est unie à l'offrande et à l'intercession du Christ grâce et à travers l'Eucharistie. Chargé du ministère de Pierre dans l'Église, le pape est associé à toute célébration de l'Eucharistie, où il est nommé comme signe et serviteur de l'unité de l'Église universelle. L'évêque du lieu est toujours, en tant que responsable de l'Eucharistie, même est toujours nommé aussi lorsqu'elle est présidée par un prêtre. Son nom y est prononcé pour signifier sa présidence de l'Église particulière, de l'Église locale, au milieu du presbytérium et avec l'assistance des diacres. La communauté chrétienne intercède aussi pour tous les ministres qui, pour elle et avec elle, offrent le sacrifice eucharistique. C'est saint Ignace d'Antioche qui a vécu à la fin du 1er siècle, qui écrivait que cette Eucharistie seule soit regardée comme légitime, qui se fait sous la présidence de l'évêque ou de celui qui en est chargé. C'est par le ministère des prêtres que se consomme le sacrifice spirituel des chrétiens, en union avec le sacrifice du Christ, unique médiateur, offert au nom de toute l'Église dans l'Eucharistie par les mains des prêtres, de manière non sanglante et sacramentelle, jusqu'à ce que vienne le Seigneur lui-même à la fin des temps. À l'offrande du Christ s'unissent non seulement les membres qui sont encore ici-bas, mais aussi ceux qui sont déjà dans la gloire. C'est en communion avec la très sainte Vierge Marie et en faisant mémoire d'elle, ainsi que de tous les saints et de toutes les saintes, que l'Église offre le sacrifice eucharistique. Dans l'Eucharistie, l'Église, avec Marie, est comme au pied de la croix, unie à l'offrande et à l'intercession du Christ. Saint Augustin a admirablement résumé, continue donc le catéchisme de l'Église catholique, a admirablement résumé cette doctrine qui nous incite à une participation de plus en plus complète au sacrifice de notre Rédempteur que nous célébrons dans l'Eucharistie. Cette cité rachetée tout entière, c'est-à-dire l'Assemblée et la Société des Saints, est offerte à Dieu comme un sacrifice universel, par le grand prêtre qui, sous la forme d'esclave, est allé jusqu'à s'offrir pour nous dans sa passion, pour faire de nous le corps d'un si grand chef. Tel est le sacrifice des chrétiens, à plusieurs n'être qu'un seul corps dans le Christ, comme nous dit l'Épître aux Romains au chapitre 12. Et ce sacrifice, l'Église ne cesse de le reproduire dans le sacrement de l'autel bien connu des fidèles, où il lui est montré que dans ce qu'elle offre, elle est elle-même offerte. Voilà donc la citation du catéchisme assez longue, le catéchisme de l'Église catholique que je voulais vous faire et que vous le voyez, reprend bien ce que nous avons vu au cours des deux derniers cours sur ce chapitre consacré à la définition, à l'essence de la Sainte Messe. Alors, comme vous le voyez, le catéchisme de l'Église catholique reprend le fond de l'enseignement traditionnel de la Sainte Messe. Cependant, il nous faut mettre un petit bémol. En effet, une analyse plus précise amène à constater quelques lacunes, je dirais, quelques imprécisions qui sont le reflet des confusions qui se sont introduites non seulement chez les liturgistes progressistes, mais aussi, malheureusement, il faut le dire, même dans l'esprit des liturgistes que je qualifierais de classiques, au cours donc des dernières décennies. Ces imprécisions, malheureusement, peuvent parfois être graves. Et pour illustrer ces propos, je prendrai deux exemples qui concernent la partie traitant de la messe dans le catéchisme de l'Église catholique. Le premier exemple est extrait d'une remarque que faisait dans un moine de Foucombeau dans le livre intitulé « Une histoire de la messe », donc écrite donc par un moine anonyme de Foucombeau. C'est à la page 241-242. Alors, l'auteur part d'un extrait de l'encyclique de Pie XII, que je vais vous lire, concernant l'importance de la notion de propitiation. C'est une notion fondamentale dans la définition de la liturgie, comme je vous l'avais dit. La propitiation, c'est l'acte qui a pour objet, comme l'indique donc son nom, et comme je vous le disais tout à l'heure, de rendre propice Dieu, de le rendre favorable, d'apaiser son courroux par un sacrifice. Le sacrifice étant au centre et à la base de la relation de l'homme avec Dieu, comme nous l'avions bien vu dans la première section de cette partie. La notion de propitiation est directement liée à la notion de sacrifice sanglant. Alors, je vous lis donc ce passage du livre d'une histoire de la messe, donc à la page 241. Pie XII donc mettait en garde contre la tentation dans son encyclique Mediator Dei, et donc il écrivait: mais comme les cruels tourments que le Christ a enduré sur la croix constitue le principal mystère d'où vient notre salut, il convient à la foi catholique de les mettre le plus possible en lumière. En lui, donc dans ce mystère donc des tourments, en lui se trouve comme le centre du culte divin, car le sacrifice eucharistique le représente et le renouvelle tous les jours, et tous les sacrements se trouvent rattachés à lui par un lien très réel. Fin de citation. Et donc notre auteur a rajouté donc ce commentaire: cette difficulté à intégrer à la pratique liturgique actuelle la dimension propitiatoire, sacrificielle, du sacrifice de la messe nous apparaît dans deux faits qui sont passés inaperçus mais qui sont éclairants. L'édition de 1992 du catéchisme de l'Église catholique fait une citation du Concile de Trente au numéro 1367. Mais étonnamment, elle l'ampute et en fausse le sens. Dans sa version amputée, il y a seulement l'affirmation, certes capitale, que, et là, ouvrez les guillemets, dans ce divin sacrifice qui s'accomplit à la messe, ce même Christ est contenu et immolé de manière non sanglante, fermez les guillemets. Dans l'édition typique latine de 1797, donc 5 ans plus tard, comme dans l'édition définitive française de 1998, la citation, en fait, est rétablie dans son intégrité et surtout dans son vrai sens, et en particulier avec le passage suivant. Et puisque dans ce divin sacrifice qui s'accomplit à la messe, ce même Christ qui s'est offert lui-même une fois de manière sanglante sur l'autel de la croix est contenu et immolé de manière non sanglante, ce sacrifice est vraiment propitiatoire. Et ces dernières expressions avaient été donc supprimées dans la première version. Ce sacrifice est vraiment propitiatoire, a été donc rétabli. On mesure donc, nous fait remarquer donc l'auteur, à ce fait la réticence de certains milieux à reconnaître que la messe est vraiment un sacrifice propitiatoire. Je dirais donc que ce mot propitiation la notion de propitiation donc est directement liée à la notion de sacrifice sanglant. Et donc le fait donc que le mot propitiation ne s'y trouve pas montre bien donc la réticence donc que l'on veut reconnaître au caractère sacrificiel de la liturgie. Le moine donc continuait. On montre de ce fait la réticence de certains milieux à reconnaître, donc, comme je disais, que la messe donc, est vraiment un sacrifice propitiatoire. Le deuxième fait, donc continue notre auteur, le deuxième fait va dans le même sens. Le tableau analytique de l'édition latine typique du même catéchisme comporte au mot expiation 3 mentions. Expiation peccatorum in Israël, donc expiation des péchés en Israël, avec renvoi donc un certain numéro. Jésus, Jesus ut victima expiationis peccatorum humanorum, c'est-à-dire Jésus en tant que victime expiatoire des péchés des hommes, avec renvoi là aussi un certain nombre de numéros. Et puis la dernière mention donc du mot expiation donc dans cet index du catéchisme est valeur expiationis peine, valeur expiatoire de la peine. Aussi étonnamment que cela puisse paraître, alors que l'édition française de 1990 comporte le mot expiation dans sa table analytique, l'édition définitive de 1998, donc 5 ans plus tard, elle ne le comporte plus. Alors, on peut dire donc que le mot expiation, donc le mot propitiation, donc plutôt de l'index analytique, renvoie à un certain nombre de numéros, plus dans le catéchisme, mais à aucun de ces numéros ne concerne la liturgie. Cela est assez grave. Ainsi, donc, le texte du catéchisme, dans sa version définitive, dans son orthodoxie de fond, reflète quand même dans une certaine mesure, les dérives de certains courants théologiques des années d'après-guerre qui se sont développés au cours donc des dernières décennies et qui fait que ces dérives peuvent apparaître même dans un ouvrage aussi fondamental et aussi excellent qu'est le catéchisme de l'Église catholique et qu'une analyse précise, une analyse fouillée donc met en relief. Et puis je voulais donc aussi vous citer un deuxième extrait de ce même ouvrage à la page suivante. L'auteur fait remarquer un peu plus loin donc la chose suivante. Dans un article d'un grand intérêt, mais qui n'a pas été assez remarqué et qui avait été publié dans la revue La Pensée catholique, numéro 129, Le père Philippe de la Trinité, qui est un spécialiste de la liturgie, enfin qui était puisqu'il est décédé, hein, donnait une note critique sur l'offertoire du nouvel Ordo Missae, donc de la nouvelle messe. Il y faisait remarquer que la théologie de la scène luthérienne peut comprendre, elle aussi, la présence, une certaine présence réelle. En effet, la théologie protestante nous enseigne que les deux substances du pain et du corps coexistent le temps de la célébration de la scène. Mais bien sûr, ce n'est pas une présence réelle, puisque la consécration n'est pas faite par un ministre ayant reçu le pouvoir de faire la consécration. Mais ça fait partie quand même de la foi protestante. Et puis aussi que le mémorial du sacrifice expiatoire de la croix, il est aussi mentionné chez dans la scène protestante, que le sacrifice, il y a aussi un sacrifice de louange et d'action de grâce, et qu'il y a une communion au corps et au sang du Christ, même si bien sûr nous catholiques, nous savons que ce n'est pas une communion réelle au corps et au sang du Christ. Et le père, donc, Philippe de la Trinité, ajoutait « Ce qui est radicalement, par contre, rejeté de la messe catholique, c'est qu'elle est elle-même aussi en référence au sacrifice de la croix dans sa dépendance. » C'est-à-dire que ce que les protestants donc, rejettent radicalement de la messe catholique, c'est qu'elle est elle-même aussi en référence au sacrifice de la croix et dans sa dépendance, un authentique sacrifice de propitiation d'ordre non sanglant et sacramentel. Et ce qui est donc au fondement donc de l'essence même de la messe, comme nous l'avons vu au cours de ce chapitre. Donc, si la théologie, en clair, la théologie protestante dans sa Sainte Cène reprend un certain nombre d'éléments de la liturgie catholique en les transformant, en leur donnant quand même un sens qui est différent. Par contre, ce qu'elle rejette de façon catégorique, c'est justement cette notion de sacrifice propitiatoire d'ordre non sanglant, d'ordre sacramentel, qui est au centre. Donc c'est pour ça donc cette notion de propitiation qui a été mise de côté reste fondamentale, reste un point donc de différence avec les protestants, et le fait de l'avoir mis de côté montre bien quand même, il faut l'avouer, les ambiguïtés concernant donc cette théologie, en fait liturgie qui a été développée au cours des dernières décennies dans les universités, dans un certain nombre d'ouvrages, et qui démontre donc un glissement vers le protestantisme. Et puis, le deuxième exemple que je voulais vous donner, donc montrant en fait ces ambiguïtés du catéchisme de l'Église catholique et donc certains bémols qu'il faut malheureusement introduire si l'on veut faire quand même une présentation solide et puis approfondie de ces articles du catéchisme de l'Église concernant la liturgie. Le deuxième exemple est le suivant. Les numéros 1362 à 1372 que je viens de vous lire en introduction donc de ce cours et qui constitue donc comme la transition donc avec les cours précédents font partie d'un ensemble qui porte pour titre le sacrifice sacramentel. Alors là aussi je vous renvoie à ce que je vous avais dit il y a deux cours. L'ordre des mots n'est pas neutre. La définition de la messe est sacrement du sacrifice de la croix. Donc, avec d'abord donc, le mot sacrement, puis ensuite le mot sacrifice de la croix. Un verset les termes, inverser les mots en parlant de sacrifice, de sacrifice sacramentel et non plus de sacrement du sacrifice, c'est inverser en fait les fonctions de genre et de différence spécifique. Et donc, ça revient à réduire, comme je vous le disais, le sacrifice à un genre et qui met tous les sacrifices donc dans le même genre et donc sur un pied d'égalité. Et donc, celui de la messe, alors que celui de la messe donc, ne se différencie en plus des autres sacrifices dans le fait qu'il est sacramentel, uniquement sacramentel et dans l'ordre du signe. Et donc cette ambiguïté donc introduite donc dans la définition dans cette approche de la messe en faisant donc qu'elle n'est qu'un sacrifice comme un autre, mais simplement que ce sacrifice est d'ordre sacramentel, entretient en arrière-fond les ambiguïtés dont je vous avais signalé et qui dans un ouvrage qui doit être précis comme celui d'un sacrifice, peut introduire un certain malaise. Alors ceci donc est quand même relativement grave, car la notion de propitiation, comme je vous le disais, renvoie à l'essence même de la messe, et le sacrifice est l'essence de la messe. Ainsi donc, dans un ensemble très classique, une analyse attentive détecte des anomalies, non pas mineures, mais concernant l'essence de la messe. Les faiblesses, non pas, je dirais, pour reprendre une image, dans les cloisons du bâtiment de la liturgie, mais des faiblesses dans ses fondations mêmes. Il n'est pas, puisqu'il concerne la définition, l'essence même de la liturgie. Il n'est pas nécessaire d'être architecte pour comprendre que ce que cela signifie, une faiblesse dans les fondations d'une maison est une menace d'affaiblissement, voire d'écroulement de la maison si la maison connaît un séisme, un tremblement de terre, comme ce fut malheureusement le cas pour la liturgie dans les années post-conciliaires. Et ceci explique donc les dérives qui s'en sont suivies. Les éléments de la tradition s'y trouvent, certes, mais comme nous l'avons vu tout à l'heure quand je vous ai fait la citation de la dizaine de numéros du catéchisme de l'Église catholique, on voit que les éléments, la tradition s'y trouve, mais pas exposés selon la cohérence traditionnelle, ce qui prête donc à une certaine confusion que nous retrouverons dans les nouveaux livres, il faut le dire, de la réforme liturgique de la messe et aussi dans les livres concernant les sacrements qui vont être réédités au cours des années 70, au début des années 70, et que nous analyserons dans la quatrième partie. Donc voilà ce que je voulais vous dire, donc, sur le dernier cours. Et maintenant, donc, il nous faut aborder les deux derniers points de ce chapitre que constituent le genre prochain de la messe et le genre éloigné. Alors d'abord, le genre prochain. Le genre prochain de la messe, donc, c'est-à-dire les sacrements. Alors, je vous invite là à prendre le schéma que je vous ai mis en annexe sur le site et dans lequel que je vais vous commenter sur le schéma donc sur la prière. Alors, en effet, jusqu'ici, dans cette leçon, je vous ai parlé de l'essence de la messe, de sa définition, c'est-à-dire de son espèce. La messe, donc, je vous l'ai dit, est le sacrement du Golgotha, le sacrement du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Dans cette définition, le genre est sacrement. Et la différence spécifique est Golgotha, ou sacrifice de Jésus-Christ donc sur la croix. Donc cela vous apparaît clairement donc sur le schéma donc que je vous ai donc confectionné et que vous pouvez donc retrouver donc sur le site. Cette différence spécifique donc sacrifice donc du Golgotha permet de contracter le genre sacrement, de le préciser, de le spécifier. Qui peut donc, en effet, le mot sacrement peut s'appliquer à d'autres réalités. Donc, c'est important donc de le préciser, puisqu'il existe donc d'autres sacrements, et d'obtenir ainsi donc en le précisant, en le contractant donc l'espèce messe, l'essence messe, sa définition essentielle. C'est de cette manière donc que nous avons parlé jusqu'ici, en insistant donc sur la notion donc de sacrifice. Maintenant donc, il nous faut nous arrêter donc sur l'autre notion qui entre dans les éléments de la définition, à savoir donc le genre prochain, la notion de sacrement. Puis dans le genre éloigné, donc il faudra aussi donc que nous parlions donc du genre éloigné qu'est la liturgie, comme cela donc apparaît donc sur le schéma. Là de nouveau tout ceci donc pour éviter encore et lever les confusions qui ont pu apparaître au cours des dernières décennies quand on utilise un mot pour un autre ou dans une acception approximative. Il faut être précis, ce qui ne peut donc en effet sinon entraîner que des effets dommageables en théologie de la liturgie qui entraînent donc des dérives dans le domaine théologique. Alors, avant donc d'aborder donc ce genre prochain donc de la messe que constitue la notion de sacrement, je vais vous commenter l'ensemble du tableau donc que je vous ai mis donc sur le site que je vous invite donc à télécharger et puis à photocopier pour que nous puissions donc le commenter, le lire ensemble. Alors, il faut partir donc du bas. Vous voyez donc du bas donc à gauche. Vous voyez donc en bas à gauche, nous partons donc de la notion de prière, qui est en fait la notion la plus générale. Et puis nous introduisons donc la distinction prière des baptisés ou prière des non-baptisés. En effet, le baptême a inscrit dans le baptisé une spécificité, introduit une réalité qui fait que l'âme du baptisé devient le royaume des cieux et que de par le baptême, le baptisé a été lavé du péché originel et a été introduit dans l'Église, avec donc cette spécificité donc que son âme devient le royaume des cieux. Ceci donne donc une ouverture donc sur tous les autres sacrements et aussi un état de grâce, une ouverture à la grâce sacramentelle en particulier, et qui fait que la prière du baptisé donc est enrichi donc d'une ouverture à la grâce toute spéciale que ne possèdent pas donc les non-baptisés. Donc d'où la justification donc de cette distinction, de cette différence spécifique, qui fait que d'un côté donc nous avons donc la prière juive, la prière musulmane et la prière païenne, et de l'autre côté donc en appliquant donc à la notion de prière la différence spécifique des baptisés, nous obtenons la prière chrétienne. La prière chrétienne elle-même, donc, se subdivise en, d'une part, organisée autour des sacrements et non organisée autour des sacrements. Alors, la prière qui n'est pas organisée donc autour des sacrements, c'est la prière des communautés protestantes, puisque les protestants n'ont gardé que le sacrement du baptême, et puis aussi pour certains, le sacrement du mariage. Donc, les protestants donc, n'ont pas donc, cette spécificité donc, que leur prière donc, soit organisée autour des, soit fondée sur les sacrements. Alors donc, dans l'autre distinguo, donc, la prière chrétienne organisée autour des sacrements, nous obtenons la prière de l'Église. Et la prière de l'Église elle-même donc se distingue donc la prière de l'Église unie aux successeurs des pierres, et nous obtenons donc l'Église catholique. Et puis d'autre part, nous avons la prière de l'Église avec la différence spécifique non unie aux successeurs de l'Église, aux successeurs de Pierre, et nous obtenons donc là la notion d'Église au pluriel orthodoxe. À partir de là, donc, nous passons donc au haut du tableau, et qui part donc de la prière de l'Église. Alors là, non, je ne reprends pas la distinction Église catholique, Église orthodoxe, mais dans ce que je vais vous dire, cela reflète essentiellement, fondamentalement, la réalité de l'Église catholique. Donc, prière de l'Église. Et là, de nouveau, donc, nous introduisons donc deux différences spécifiques. D'abord, donc, la prière de l'Église non officielle, et puis ensuite, donc, ce qui donne donc la prière privée, et puis d'autre part, donc, la prière de l'Église officielle, ce qui nous donne la liturgie, qui est donc la prière de l'Église officielle. La liturgie elle-même, que nous allons approfondir dans la notion de genre éloigné tout à l'heure, la liturgie elle-même se distingue en liturgie de droit divin et puis liturgie de droit ecclésiastique. C'est-à-dire que lorsque nous prenons donc le genre liturgie et nous lui appliquons la différence spécifique de droit divin, nous obtenons donc les sacrements. Et lorsque nous lui appliquons la différence spécifique de droit ecclésiastique, nous obtenons donc une nouvelle catégorie qui n'a pas vraiment de nom, c'est pour ça que je vous ai fait donc un carré donc vide, mais qui elle-même se distingue donc dans la prière liturgique de droit ecclésiastique déconsacré, ce qui nous donne donc l'office divin, donc le bréviaire, et d'autre part donc la liturgie de droit ecclésiastique pour les circonstances particulières, ce qui nous donne donc les sacramentaux du rituel, avec par exemple donc les obsèques, les bénédictions donc que nous retrouvons donc dans le rituel publié par le Saint-Siège, les processions, les exorcismes, et puis aussi différentes prières que sont les litanies, le Te Deum, etc. Et puis, donc, pour revenir donc à la liturgie, si nous lui appliquons la différence spécifique de droit divin, là, nous obtenons les sacrements. Les sacrements, donc, nous-mêmes, nous l'avons vu, si nous leur appliquons donc la différence spécifique du Golgotha, nous obtenons donc la sainte messe. Donc, à travers, donc, grâce à ce schéma, vous avez donc bien sous les yeux, bien en tête, les différentes notions que sont la messe, les sacrements, la liturgie, la prière, les différentes notions. Donc, placés donc bien à leur place. et ce qui permet donc d'avoir une vision claire et puis ordonnée de ces différentes notions que j'utilise par rapport et de leur place par rapport à la prière. Voilà donc pour ce schéma et donc qui nous permet donc de bien voir clairement quelle est la place de la messe par rapport donc au sacrement et eux-mêmes par rapport à la liturgie et comment donc ils s'emboîtent l'un dans l'autre. Quel est donc le lien qui font leurs relations, qui sont donc des liens donc de genre avec comment dire différences spécifiques qui permettent donc d'obtenir à chaque fois donc pour ces notions leur définition, leur espèce. Donc oui et puis aussi donc ce que je voulais aussi vous donner, c'est la définition justement donc des sacramentaux que nous retrouvons dans ce schéma. Donc je vous disais donc les sacramentaux donc du rituel sont la liturgie de droit ecclésiastique pour des conséquences particulières. Alors les sacramentaux, donc par rapport au sacrement, il est important de bien les préciser. Et c'est ce que fait le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1676 à 1670, que je vous lis. La Sainte Mère l'Église a institué des sacramentaux, qui sont des signes sacrés, par lesquels, selon une certaine imitation des sacrements, des effets surtout spirituels sont signifiés et sont obtenus par la prière de l'Église. Par eux, des hommes sont disposés à recevoir l'effet principal des sacrements et les diverses circonstances de la vie sont sanctifiées. Ils sont institués par l'Église en vue de la sanctification de certains ministères de l'Église, de certains états de vie, de certaines circonstances très variées de la vie chrétienne, ainsi que de l'usage de choses utiles à l'homme. Comme je vous le disais tout à l'heure, hein, dans les sacramentaux, vous avez les obsèques, les bénédictions, les processions, les exorcismes, et puis différentes prières officielles de l'Église, que sont les litanies, le Te Deum, etc. Donc, les sacramentaux sont institués par l'Église en vue de la sanctification donc, de certains ministères, voilà, comme je vous le disais. Les sacramentaux ne confèrent pas la grâce de l'Esprit-Saint à la manière des sacrements, mais par la prière de l'Église, il prépare à recevoir la grâce et il dispose à y coopérer. Chez les fidèles bien disposés, presque tous les événements de la vie sont sanctifiés par la grâce divine qui découle du ministère pascal de la Passion, de la mort, de la résurrection du Christ, car c'est de lui que tous les sacrements et sacramentaux tirent leur vertu. Car il n'est à peu près aucun usage honorable des choses matérielles qui ne puisse être dirigé vers cette fin, la sanctification de l'homme et la louange de Dieu. Donc, toutes choses dans la vie chrétienne doit être offerte à Dieu, donc doit être sanctifiée, comme par exemple lorsque nous mangeons. C'est normal de bénir le repas. Quand le matin son enfant s'en va, il est normal qu'une mère bénisse son enfant partant à l'église. Ça fait partie, disons, de la vie chrétienne. Or, si les sacrements donc, sont là pour bénir les grands événements, comme sont le mariage, comme sont par exemple pour les derniers sacrements, le passage dans notre vie, les sacrements ne couvrent pas tous les événements. Et donc là, on peut avoir donc recours à des sacramentaux, qui sont donc aussi des bénédictions, dans l'exemple donc que je vous donnais, des bénédictions plus ou moins importantes. C'est certain qu'on ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité les obsèques, les exorcismes, et puis d'un autre côté la bénédiction d'un repas ou bien la bénédiction par une mère d'un enfant qui s'en va le matin à l'école. Alors, le catéchisme donc continue et donne les précisions suivantes. Les sacramentaux, la précision suivante, ça se termine là, excusez-moi. Voilà. La fin de citation donc du catéchisme de l'Église catholique. Voilà. Donc voilà donc pour la présentation, globale de ce tableau. Ensuite, je vais donc donner la définition du genre prochain que sont les sacrements. De façon générale, donc, et je dirais dans une première approche, les sacrements sont des moyens ordinaires, sont les signes sensibles établis par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est important, donc établi par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel Dieu communique sa grâce à l'homme et dans lesquels Dieu se donne à l'homme, par lequel Dieu lui communique sa vie, lui communique la vie surnaturelle et son amour. Je dirais, voilà ce que l'on peut dire dans une première approche pour définir les sacrements. De façon plus précise, nous pouvons donc définir le sacrement par le genre prochain dans lequel s'intègre donc le sacrement et qui est la liturgie, comme l'indique donc le tableau que je viens de vous commenter. Le sacrement donc fait partie de la liturgie. Et si à ce genre prochain qu'est la liturgie, nous appliquons la différence spécifique de droit divin, donc institué par notre Seigneur Jésus-Christ, donc de droit divin, nous obtenons la définition et l'essence du sacrement, qui est une espèce donc de la liturgie. Donc, d'où la définition du sacrement, donc la définition essentielle, le sacrement est la liturgie de droit divin, institué par notre Seigneur, directement par notre Seigneur Jésus-Christ. Sachant donc que la liturgie donc, est un ensemble de rites, de signes sensibles et de prières qui produisent la grâce, comme nous le verrons donc tout à l'heure. Donc le sacrement a pour propre aussi d'être issu du côté transpercé de Jésus-Christ et d'être donc l'instrument privilégié de son amour, c'est-à-dire de la grâce. C'est pour ça donc que la définition que l'on retrouve dans les catéchismes traditionnels du sacrement, c'est donc le signe qui signifie et qui donne la grâce. Le point suivant, donc, concernant le sacrement, est l'importance des sacrements. Tout nous est mérité par le Christ dans le sacrifice de la croix, qui est le summum de la vie de Jésus-Christ et qui reprend et porte à leur achèvement tous les sacrifices de sa vie et tous les sacrifices de l'humanité. Tout cela, nous l'avions déjà vu. Et après le sacrifice de la croix, donc Jésus donc lui-même donc pour cette raison donc descend aux enfers afin donc d'emmener les élus au paradis, les élus dont il vient donc d'ouvrir, à qui il vient d'ouvrir les portes qui avaient été closes par le péché originel. Et donc ce qui montre bien que le sacrifice de la croix reprend tous les sacrifices de l'ancienne alliance et les mène à leur achèvement. Étant ainsi maître de la vie, c'est donc Jésus-Christ lui-même qui établit et qui a le pouvoir d'établir les moyens par lesquels il a décidé de communiquer et de distribuer aux hommes ce salut qui lui appartient et qui est lui-même, puisque c'est lui-même qui l'a constitué et qui l'a mérité sur la croix, dans le sacrifice sanglant de la croix. Et donc, pour ces raisons, c'est Jésus-Christ lui-même qui a fixé les sept sacrements qu'il a confiés à l'Église pour être les moyens ordinaires par lesquels le salut conquis sur la croix est distribué aux hommes. Et l'Église, donc, étant le prolongement du mystère de l'incarnation, les sept sacrements sont les moyens, les instruments privilégiés confiés par son époux, le Christ, à son Église, son épouse, afin que celle-ci continue son œuvre de sanctification, continue l'œuvre de sanctification que le Christ donc a instituée sur la croix du Golgotha. C'est ce que nous dit saint Thomas dans le prologue de la Tertia Pars de sa Somme théologique. Après avoir considéré ce qui concerne le mystère du Verbe incarné dans la Seconda Pars, il nous faut considérer les sacrements de l'Église qui prennent leur efficacité du Verbe incarné même. Ceci nous amène donc à maintenant aborder les sacrements chez saint Thomas dans sa Tertia Pars aux questions 60 à 65. Je vais donc maintenant passer en revue pour vous exposer un peu les points intéressants, les points importants dont nous parle saint Thomas concernant les sacrements. D'abord, donc, la question 60 de cette Tertia Pars de la Somme théologique de saint Thomas. Le sacrement, nous dit saint Thomas, est le signe d'une réalité sacrée qui sanctifie l'homme, c'est-à-dire le signe de la grâce qu'elle produit. Il est en même temps la commémoration de la passion duquel il dérive, duquel le sacrement dérive, et dont il est le gage, le signe pronostique. Pronostique, ça veut dire qui permet de connaître d'avance, puisque pronostique est bâti sur pro, avant, et gnostique, nosco, qui veut dire connaître en latin. Donc, elle est donc le signe, le sacrement est le signe pronostique de la béatitude future, puisque déjà, à travers la grâce qui nous est donnée dans les sacrements, nous avons un avant-goût de la vie éternelle. En chaque sacrement, nous dit saint Thomas, sont une chose sensible, d'une part, et d'autre part, des paroles, qui ensemble constituent un unique sacrement. Par exemple, quand on baptise, on verse de l'eau, qui est la chose sensible, et on dit les paroles très précises, un tel, par exemple Pierre, « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » La chose, donc, est la matière du sacrement, et les paroles sacramentelles sont la forme du sacrement, car elles déterminent la signification, donc ces paroles, de la chose sensible. La matière et la forme sont considérées analogiquement et non univoquement, c'est-à-dire leur usage n'est plus dans l'ordre naturel, mais surnaturel, tout en s'enracinant donc dans leur signification naturelle. Donc, la chose donc est exploitée dans sa puissance obédientielle de ce qu'elle est naturellement. C'est-à-dire que, par exemple, pour le baptême, vous avez l'eau qui est faite donc pour laver et qui pour donner la vie, puisque nous avons besoin de l'eau pour vivre. Et bien là, de cet usage naturel de l'eau, l'eau est élevée donc à sa puissance obédientielle, qui est une puissance surnaturelle, grâce aux paroles qui sont prononcées et qui font que cette eau devient donc le canal de la vie surnaturelle et que cette eau aussi, à travers ce sacrement, va laver l'âme spirituelle du baptisé et la laver du péché originel. Ce qui fait donc d'un usage naturel de l'eau, de par la puissance obédientielle, donc de par, un ordre spécial de Jésus-Christ, cette eau, donc, de son usage naturel, est élevée à un usage surnaturel, mais un usage surnaturel qui s'enracine quand même dans un usage naturel. C'est-à-dire que le fait que le sacrement, en versant de l'eau, lave l'âme du pécheur originel et lui confère la vie surnaturelle, s'enracine quand même dans un usage naturel qui appartient à l'eau, qui est de laver naturellement nos corps, et puis aussi de leur donner la vie en les abreuvant. Voilà donc ce que dit saint Thomas donc au numéro 60. Et ce qui est important de comprendre donc pour le sacrement. À la question 61, saint Thomas donc continue, il dit que les hommes sont conduits aux réalités spirituelles par l'intermédiaire des choses sensibles. Et ceci donc contre l'enseignement des protestants qui refusent donc les sacrements et veulent une relation directe et strictement spirituelle, scripturaire avec Dieu. Les sacrements, donc, ont une place tout à fait à part dans le plan de salut de Dieu. Nous le comprenons bien à travers tout ce que je viens de dire. Il faut distinguer, donc, les sacrements des rituels de la loi naturelle, que l'on retrouve donc dans les religions naturelles, à travers, par exemple, les danses naturelles, l'usage de l'encens, des sacrifices d'amour, etc. Il faut aussi distinguer donc les sacrements donc dans ce plan de salut, non seulement donc du rituel de la loi de nature, mais aussi des sacrements de la loi mosaïque que sont la circoncision par exemple ou la fête de la Pâque, la fête du Yom Kippour, c'est-à-dire donc du Grand Pradon, etc. Et il faut aussi distinguer les sept sacrements de la loi évangélique. Les deux, en effet, la loi évangélique et puis les sacrements ont été institués par notre Seigneur Jésus-Christ en vue de notre sanctification pour l'élévation de notre âme et pour lui permettre de vivre de la vie de la grâce sanctifiante, mais les sacrements relient directement à la passion du Christ. Ils opèrent par la force de sa passion, réalisée historiquement, et donc nous relient à cet acte, à cet événement historique, et sont non seulement signe de la grâce produite, mais aussi sa cause. La lecture des Écritures saintes, par contre, ce qu'on appelle la lectio divina, elle n'est qu'un sacramental, selon la définition donc, que je vous donnais tout à l'heure. Et puis, nous aurons l'occasion d'y revenir aussi sur le sacramental. Je vous donnerai tout à l'heure un certain nombre de précisions qui le différencient du sacrement. Question suivante, question 62, donc toujours de la somme de saint Thomas. De la causalité des sacrements, les sacrements agissent ex opere operato. Ils produisent leur effet par eux-mêmes. Donc, quand on pose l'acte, donc on verse de l'eau puis on dit les paroles, eh ben, la grâce réalise son effet automatiquement, et non pas selon les mérites de l'agent. Donc, la grâce est donnée, même si malheureusement, par exemple, l'agent était en état de péché mortel. Les actes donc, de l'agent ne sont pas de l'ordre de l'essence des sacrements. ne remettent pas en cause son essence, mais sont simplement dispositifs. Saint Thomas dit « dispositive se habent ». Ce qui veut dire donc en fait que la sainteté de l'agent dispose à la bonne réception du sacrement, mais n'en conditionne pas la validité. Il conditionne, je dirais, l'environnement des sacrements. Parce qu'en effet, la vie désordonnée d'un prêtre, par exemple, ne diminue en rien la force objective des sacrements, mais par contre ternit l'atmosphère dans laquelle ils se déroulent, et en tant qu'ils sont cause de scandale. En effet, nous dit saint Thomas, « Quid recipitur, ad modum recipientis recipitur », ce qui est reçu, donc, est reçu à la mode de celui qui reçoit. Donc, plus on est proche de la source de la lumière et de la chaleur, plus on est illuminé et réchauffé. Et donc, plus on est pur, plus on est transparent à l'action de la grâce, plus notre cœur est ouvert à l'Esprit Saint et plus on reçoit les effets. Et donc, ce qui montre aussi que si le sacrement agit ex opere operato, celui qui reçoit le sacrement doit aussi être bien disposé pour pouvoir donner à ces sacrements toute l'ampleur qu'ils peuvent donner. Les sacrements, donc, agissent par eux-mêmes. Ils agissent ex opere operato, donc à partir donc, de l'action de la chose réalisée. Car l'agent, donc ils agissent par eux-mêmes, car l'agent principal est le Christ. On en revient toujours au même. Hein. J'avais déjà abordé cette question en vous parlant donc, de la messe. Les sacrements agissent par eux-mêmes, car l'agent principal et le Christ lui-même. Quelle que soit la sainteté ou le manque de sainteté du prêtre, c'est toujours la messe, qui est toujours validement réalisée avec la même et unique force de sanctification, car c'est le Christ qui demeure la cause efficiente principale. Et je vous avais déjà expliqué, donc le prêtre n'agit au niveau de la cause efficiente que comme efficiente instrumental, n'est que l'instrument dans les mains de Jésus-Christ qui est la cause efficiente principale. On avait déjà vu ça donc, au début donc, de ce chapitre quand je vous avais parlé des différentes causes de la messe. Ceci nous amène aussi à aborder une question débattue qui est la suivante. La doctrine de l'Église dit que les sacrements signifient et produisent la grâce. Alors certains ergotent en se demandant est-ce que les sacrements produisent la grâce moralement ou physiquement. Saint Thomas enseigne clairement les choses, enseigne clairement la causalité instrumentale physique des sacrements. Sinon, ils ne seraient que de simples signes, comme nous l'enseignent les protestants. En effet, l'argumentation de ceux qui nient la réalité instrumentale des sacrements est que la grâce les transcende leur dimension physique, leur dimension matérielle, elle les transcende complètement, elle est donc tout à fait d'un autre ordre. Elle est purement surnaturelle et donc ne peut transiter par un moyen naturel, qui tout au plus ne peut être que le signe matériel de la réalité de l'action surnaturelle. C'est une thèse qui a été soutenue par l'école scotiste, c'est une thèse qui a été reprise par les protestants. L'agent de la grâce est le Christ qui agit directement. Alors à partir de là, malheureusement, on en vient progressivement à nier la nécessité des sacrements, puisque l'essentiel est au niveau spirituel, que les instruments, enfin, la matière qu'on utilise n'est que là que purement symboliquement. Bon, et donc, on en vient donc à nier la réalité des sacrements, comme l'ont fait, en fait les protestants. Influence donc de cette école, donc surtout donc de cet enseignement, donc surtout le courant protestant. Dieu donc nourrit, donc nous distille directement les âmes de la grâce, pas besoin d'un sacrement, du sacrifice de la croix. Pas besoin donc de la messe qui n'est là que simplement pour faire souvenir de ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Mais une simple scène est suffisante qui rappelle la mémoire de la scène du Seigneur pour disposer les esprits, et donc tout cela est suffisant. Cette hérésie, donc, via le modernisme, a malheureusement pénétré jusque dans les esprits catholiques. Et c'est pour ça, donc, là-dessus, donc, il faut être ferme et reprendre donc l'enseignement de saint Thomas qui disait donc non, la matière, de par la volonté de Dieu, a été élevée donc à sa puissance obédientielle, et donc elle réalise réellement ce qu'elle signifie, donc, et elle utilise ses forces naturelles, que sont donc le fait, par exemple pour le baptême, l'exemple que vous avez pris, de laver et de donner la vie. Elle utilise cette force élevée par une grâce spéciale, donc ce qu'on appelle la puissance obédientielle, elle l'utilise au niveau surnaturel. Et donc, il y a réellement, donc, à travers cette matière, la grâce qui passe. De telle sorte que si l'on utilisait les paroles sans utiliser l'eau, donc soit en n'utilisant aucune matière, ou soit en utilisant une matière qui est autre que l'eau, par exemple, je ne sais pas, du vin, eh bien, le sacrement serait invalide. Donc, ce qui montre bien que la matière a son rôle fondamental et qu'il y a bien, donc, l'effet produit n'est pas seulement moral, mais il est aussi d'ordre physique, comme le disait donc l'enseigné saint Thomas. Dans cette même question, à l'Ad Primum, saint Thomas dit à partir donc de l'autorité de nombreux saints, on peut tenir que les sacrements de la nouvelle loi non seulement signifient, mais causent la grâce. Causent donc réellement. Ce n'est pas de simples signes, comme l'enseigneront plus tard donc les protestants. Ainsi, donc, on peut dire de façon commune qu'ils effectuent ce qu'ils figurent. Donc, c'est ce qu'il dit donc à l'article 1er, excusez-moi. Pour comprendre donc les données du problème, donc il faut revenir sur les notions d'agent principal et instrumental. Comme j'avais commencé tout à l'heure, on va un peu creuser donc ces deux notions. Il faut distinguer la cause efficiente principale, celle donc qui est Jésus-Christ, qui est l'agent donc principal, de la cause efficiente instrumentale, qui est celle du sacrement. Si vous voulez couper, je vais prendre un exemple qui est un peu grossier mais qui explique bien. Si vous voulez couper un baobab sans scie à main nue, en fait c'est impossible, si ce n'est en faisant un miracle. La scie donc toute seule, par contre, sans l'agent principal qu'est l'homme, ne peut rien faire non plus, et pas même un miracle. Et donc dans l'article second, saint Thomas écrit « L'instrument a deux actions, une instrumentale, selon donc ce qui est fait, non dans sa force propre, mais dans l'agent, par la force de l'agent principal. » C'est-à-dire que la scie sans l'homme ne peut rien faire. Et c'est de la manipulation de l'homme donc qu'elle peut agir pour couper donc l'arbre. Elle ne peut produire son effet que sous la motion de l'homme, et cette motion qui est absolument nécessaire. Pour le sacrement, c'est la même chose. C'est le Christ qui agit. Sans la passion du Christ, le prêtre ne peut rien faire. Le rite de la messe reste comme une coquille vide. Dans le sacrement, le Christ a la toute première place, absolument nécessaire. Tout comme pour scier l'arbre, c'est le bûcheron qui a la toute première place. Toujours donc dans cette ad secundum, immédiatement, saint Thomas ajoute qu'en plus de cette action instrumentale, aliam autem actionem propriam quae cometit sibi secundum propriam formam. Une autre action propre qui est donc selon la propre forme est réalisée. Si vous, bon, là je reprends toujours mon image, si vous utilisez, si le, par exemple le bûcheron utilise un passant pour couper, l'instrument n'est absolument pas adapté, ça ne marche pas. Et de même, si le peintre utilise une scie pour peindre, ben, c'est pas du tout adapté. Ça ne marche pas parce que la forme de l'instrument n'est pas adaptée. Donc, de même que donc, pour peindre, c'est la même chose. Ainsi, donc, l'instrument, d'une part, est en dépendance totale de l'impulsion de l'agent principal, le bûcheron ou le peintre, pour le sacrement, donc Jésus-Christ, mais d'autre part, l'action de l'agent principal dépend aussi et passe par la forme de l'instrument qui permet, donc par cette forme adéquate, à l'impulsion de l'agent principal d'atteindre sa fin. Le bûcheron a besoin d'une scie, le peintre a besoin d'un pinceau, qui ont chacun une forme bien spéciale. Et le Christ donc a décidé d'utiliser des instruments bien précis que sont donc les sacrements avec une forme bien précise, donc à chaque fois une matière bien précise. L'impulsion donc donnée par le peintre est d'un niveau totalement transcendant au monde matériel du pinceau, mais cette impulsion donc s'incarne dans cet instrument pour produire son effet. Par les sacrements, l'économie de la création du monde matériel et celui de l'incarnation-rédemption a voulu que l'action divine passe par la matière, et pas n'importe quelle matière, comme je viens de vous l'expliquer. D'où cette conclusion, les sacrements, de par leur puissance obédientielle, non seulement signifie la grâce, mais aussi la cause, la produit en recevant l'impulsion divine. Vous voyez donc la réponse au protestantisme est claire et nette. À l'article 5, saint Thomas explique « Tout comme pour le peintre, la main est l'instrument uni à son humanité et le pinceau est l'instrument séparé de son humanité, de même pour Jésus-Christ, son humanité est l'instrument uni à sa divinité et les sacrements sont les instruments séparés de son humanité. » Il y a donc une chaîne et une complémentarité et chacun a sa place, a son rôle à jouer dans le processus de sanctification des chrétiens. D'où, à l'article 3, saint Thomas écrit « Les sacrements de la nouvelle loi contiennent la grâce, c'est-à-dire par la grâce et la seu sacra, gratia continetur ineis et ut in causa instrumentalis. » C'est-à-dire donc la grâce est contenue dans les sacrements comme cause instrumentale. Donc, voilà. Les sacrements donc, de la loi nouvelle contiennent la grâce, c'est-à-dire que la grâce est contenue dans les sacrements en tant qu'ils sont cause instrumentale. Et à l'article 4, donc, saint Thomas écrit « In sacramentis est aliqua virtus causativa de la grâce », donc dans les sacrements est une certaine force, une certaine vertu causative de la grâce. À l'article 2, saint Thomas écrit « La grâce sacramentelle ajoute à la grâce dite commune et aux dons et aux vertus une certaine aide divine pour obtenir la fin du sacrement. La grâce en tant que chrétienne nous configure au Christ de diverses façons selon les divers sacrements. » Alors, ce que veut dire saint Thomas, c'est que la grâce est une certaine configuration au Christ. Elle nous donne une certaine ressemblance. Et la grâce sacramentelle, en tant qu'elle est instituée par Jésus-Christ lui-même, elle est de droit divin, crée en nous une configuration au Christ encore plus forte, encore plus profonde. Elle l'inscrit comme un sceau christique plus profond. Cette configuration donc au Christ donc est nécessaire pour la béatification, pour la vision béatifique. Parce que en effet, dans la vision béatifique, nous verrons Dieu, parce que nous serons vus par Dieu à travers le Christ qui est inscrit en nous. Et donc cette configuration donc écrit au Christ est nécessaire pour la vision béatifique, pour notre participation à la vie trinitaire. Après sa passion, Jésus-Christ descend aux enfers pour emmener les élus au ciel et leur inscrire, donc, par cette visite aux enfers, sa propre image de Christ ressuscité. Et ainsi, donc, en les emmenant donc au ciel, ensuite, le Père les perçoit à travers son Fils. C'est pour cette raison que les non-baptisés ne peuvent accéder à la vision béatifique et que le baptême est de nécessité du salut éternel, donc pour la vision béatifique, et que le Christ, à la fin du monde, reviendra pour placer à sa droite les élus et les présenter à son Père. Le jugement, là, ayant lieu donc selon le critère donc de charité, comme le Christ nous le prophétise au chapitre 25 de l'Évangile de Saint-Marc, selon Saint-Marc. La grâce sacramentelle est donc très importante. Elle donne une configuration au Christ, en particulier dans sa passion, que ne donne pas la grâce en général, les autres donc sacramentaux, et que n'avaient pas, par exemple, Adam et Ève. L'abandon des sacrements par les protestants est donc très grave. Fêter les 500 ans de la réforme est donc pour un catholique un non-sens complet. À la question 63, saint Thomas aborde la question du caractère, c'est-à-dire du sceau qui est imprimé dans notre âme et dont je viens vous dire un mot, et qui est une forme stable et éternellement indélébile. Et donc, qui n'a pas à être renouvelé. Dans certains sacrements, il y a donc ce sceau qui est imprimé. Alors, ce sceau donc concerne donc les sacrements du baptême, de la confirmation et du sacerdoce. Ce sceau donc, on le retrouve dans l'éternité. Lorsqu'on a reçu donc le sceau du baptême, de la confirmation et du sacerdoce, lorsque l'on va au paradis, donc dans l'éternité, il y a une lumière spéciale donc qui luit sur l'âme donc de celui qui a reçu ce sceau. Nous ne nous y arrêterons pas donc sur cette question 63, si ce n'est donc pour dire que l'Eucharistie donc dépend du caractère sacerdotal pour sa réalisation et aussi du caractère baptismal pour sa réception. Passons donc maintenant à la question 64. Saint Thomas donc aborde la cause des sacrements. Nous avons traité cette question lors de la définition des causes. Un peu plus haut. Concernant la cause instrumentale, le ministre hérétique ou païen peut administrer validement un sacrement à condition de respecter ce qui est nécessaire à la validité, spécialement la forme du sacrement, et avoir l'intention de faire ce que fait l'Église. C'est ainsi donc qu'un païen peut conférer validement le sacrement du baptême lorsqu'il y a donc danger de mort et qu'un ministre adéquat n'est pas disponible à temps. Mais non, bien sûr, un païen donc peut conférer donc validement le baptême, mais non, bien sûr, les autres sacrements. Le prêtre hérétique, donc validement ordonné, peut consacrer validement seul le prêtre. Ah oui, le prêtre hérétique, validement ordonné, peut consacrer aussi validement l'Eucharistie en cas donc de bon, parce qu'il a reçu donc ce sceau en fait qui le rend apte à lorsqu'il prononce les paroles de la consécration et qu'il fait ce que veut l'Église donc qui le rend apte à consacrer et validement l'Eucharistie même s'il le fait donc de façon illicite. La raison en est que, toujours la même, que le prêtre n'est que cause instrumentale et non principale. Seul le Christ, donc, est la cause principale qui agit et le prêtre n'agit que in persona Christi. Cependant, si le prêtre fait matériellement, extérieurement, alors c'est encore un autre exemple, ce que fait l'Église, mais intérieurement, il ne le veut pas. Par exemple, donc pour la consécration, il ne veut pas consacrer, même s'il prononce extérieurement les paroles, là le sacrement n'est pas valide. Car si le prêtre n'est que la cause instrumentale, il est quand même un instrument doté d'une âme spirituelle, c'est-à-dire un instrument libre. Et cette liberté peut lier le sacrement. Et donc le lier de telle sorte que le sacrement n'est pas réalisé validement, même si extérieurement, il est matériellement réalisé. Si le prêtre célèbre extérieurement, donc selon les normes de l'Église, mais intérieurement s'y oppose, le sacrement donc est invalide. Mais cette intention peut exister en celui qui n'a pas la foi. Et en l'efficacité des sacrements. Alors là, bon, bien sûr, donc comme il a l'intention et qu'il le veut, donc le sacrement donc est réalisé validement. Donc, ce qui est requis, c'est l'intentio interna virtualis. Aussi, ça c'est important, c'est-à-dire l'intention interne virtuelle et non pas actuelle. C'est-à-dire que lorsque le prêtre va célébrer la messe, il n'est pas obligé à chaque fois, donc avant la messe, de dire voilà, je vais célébrer la messe, je veux célébrer la messe validement. Si une fois donc qu'il a, de par son ordination, et célébré cette messe, sa première messe validement, avec l'intention de la célébrer, une fois que cette intention n'est pas rétractée, il a ce qu'on appelle l'intentio interna virtualis, qui est suffisante pour célébrer la messe validement. Alors, pour la validité du sacrement est exigée aussi, dans certains cas, l'intention interne de recevoir ce sacrement. C'est le cas, par exemple, pour le baptême. Si on me confère le baptême, mais que je ne veux pas recevoir ce sacrement, il y a donc atteinte à sa validité. Mais ce n'est pas le cas, il y a une exception, pour l'Eucharistie. C'est-à-dire, si on me donne l'Eucharistie, mais que je ne veux pas le recevoir, l'Eucharistie est quand même reçue validement. Ma volonté donc ne peut pas remettre en cause la présence réelle. Et surtout, ce qui définit la messe, c'est cette double consécration réalisée donc antérieurement, validement, et qui fait qu'il y a vraiment présence réelle sous les deux espèces, du pain et du vin. Voilà donc pour ces petites questions donc de validité abordées donc par saint Thomas à la question 64, qui sont un peu complexes, mais qui sont quand même qu'on peut retrouver malheureusement dans l'actualité ou dans la réalité de la vie religieuse, dans la vie de la réalité de la vie sacramentelle. Dernière question, donc la question 65 du nombre et de l'ordre des sacrements. Alors, le sacrement le plus utile est celui du baptême. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous donne accès à tous les autres sacrements, qu'il nous lave du péché originel et qu'il est de nécessité pour le salut. Mais nous dit saint Thomas, le plus grand des sacrements demeure quand même l'Eucharistie, car il réalise la présence réelle de Dieu. Il contient non seulement la grâce, mais aussi l'auteur de la grâce, qui se donne à nous réellement, nous unissant le plus intimement possible à lui dans la communion et en même temps aux autres fidèles dans le Christ et en lui. D'où à l'article 3, Respondeo, donc de cette même question 65, saint Thomas nous dit « Les sacrements sont ordonnés à l'Eucharistie comme à leur fin. Conséquence, l'Eucharistie présuppose les autres sacrements et aussi les autres ministères chrétiens. » Alors, il présuppose les autres sacrements, le baptême, c'est évident, il présuppose le sacrement de l'ordination, il présuppose aussi le sacrement de la confession, pour pouvoir y accéder régulièrement, le sacrement de confirmation qui nous donne cette force, qui nous permet d'avoir conscience et de vivre selon la réalité du sacrement de l'Eucharistie, etc. Et puis aussi, en même temps, donc, nous dit saint Thomas, il prédispose donc aux autres mystères, il présuppose aussi les autres mystères chrétiens, comme celui de l'incarnation-rédemption, puisque sans l'incarnation-rédemption, nous n'aurions pas eu les sacrements. Il présuppose aussi le mystère de la Trinité, car par le fait que la Trinité soit Père, Fils et Saint-Esprit, le Fils a pu s'incarner, et puis il peut continuer sa présence donc de Dieu à travers le mystère donc du Golgotha dans l'Eucharistie. Et le Fils donc en qui tout a été créé et recréé, et donc et cette recréation nous est donc communiquée dans les sacrements. Les sacrements présupposent aussi le mystère du péché originel, puisque du péché originel donc s'ensuit le sacrifice de la croix et puis aussi donc le sacrement de l'Eucharistie. Les sacrements présupposent aussi l'élévation à l'ordre de la grâce et de la gloire. Donc et tous ces mystères donc sont présupposés par les sacrements. Et les sacrements les utilisent aussi. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur le genre prochain de la messe.